La caméra, c'est pas une certitude, c'est un doute.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Non, j'écris.
Encore une laisse?
Eh non, c'est un collier, chérie.
C'est beaucoup trop luxueux pour un chien.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today.
On m'appelle Garance.
Garance, oh c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
Vous allez lui dire que pour satisfaire une fantaisie que vous avez, vous aimeriez avoir, je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, une robe couleur du temps.
Couleur du temps?
C'est horriblement compliqué.
Bonjour et avant tout, très belle année 2020 à tous. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Parent, le réalisateur de Un vrai bonhomme. Nous parlerons également de danse, de Abel Ferrara et de bien d'autres choses encore. On commence avec le miracle du Saint Inconnu de Alaeddin Al-Jem. Ça se passe au beau milieu du désert. Amin court sa fortune à la main et la police aux trousses. Il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite et lorsqu'il revient 10 ans plus tard, la colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré, le Saint Inconnu. C'est un premier long métrage qui a été présenté au Festival de Cannes, une œuvre burlesque qui pose sur la foi un regard à la fois tendre et comique. C'est un film plus de situation que de dialogue. On est assez proche, d'ailleurs, de l'univers de Elia Souleymane dont je vous parlais fin décembre avec son film « It Might Be Heaven ». Le miracle du Saint Inconnu peut sembler au départ être une simple intrigue de braquage autour de l'enjeu simple de récupérer un magot enseveli. Et pourtant, il se développe de sous-intrigues passionnantes et remarquablement façonnées. On ressent dans l'écriture du film une dramaturgie qui emprunte beaucoup de choses au western. Et d'ailleurs, moi j'ai pensé au film de Sergio Leone, notamment pour une scène de barbier qui est filmée de la même manière, ou en tout cas qui est un hommage au film du maître. C'est un film et un cinéaste à découvrir à travers ce film, Le miracle du Saint Inconnu qui est toujours en salle. Depuis le 1er janvier également, on peut découvrir au cinéma Cunningham de Alak Ofgan. Le film retrace l'évolution artistique du chorégraphe américain Mercy Cunningham de ses premières années, alors qu'il était danseur dans le New York d'après-guerre jusqu'à l'émergence en tant que créateur visionnaire. Le film reprend 14 des principaux ballets de la carrière fabuleuse de ce chorégraphe. Ce film est l'occasion de voir et de comprendre le processus de création artistique. Cunningham de Alak Ofgan est toujours en salle. Play est un film réalisé par Anthony Marciano avec Max Boublil et Alice Izaz. C'est un jour spécial pour Max, 40 ans. Il décide de repasser toutes ses vieilles cassettes, les enregistrements qu'il a filmés depuis que ses parents lui ont offert une caméra quand il avait 13 ans. Il passait son temps à filmer tout et tous autour de lui. On assiste donc à toutes ces premières fois, la première boîte de nuit, le premier baiser, le premier amour et puis le premier bébé. Ce film en fait raconte toute une génération, c'est ce qu'on appelle un « film footage ». Mais ce n'est pas simplement une comédie romantique qui d'ailleurs est plutôt très réussie. Il n'y a pas de mélo, le rythme est plutôt épatant. C'est un morceau de vie qui raconte autant l'amitié que l'amour et auquel on s'identifie très rapidement. C'est comme si on regardait un reportage puisque beaucoup des anecdotes du film sont réellement arrivées à Max Boublil qui est aussi co-scénariste du film. Play est en salle depuis mercredi dernier. Revoilà Abel Ferrara avec Tommaso. Après ses années de défonce, le réalisateur filme sa réhabilitation. En allant découvrir le film, je pensais encore à Nos funérailles, film culte des années 90, et je me demandais ce qu'était devenu le cinéma de Ferrara, aujourd'hui homme clean, marié et père de famille. Ici, pour la 5e fois, on retrouve William Dafoe devant la caméra du cinéaste. D'ailleurs, William Dafoe en ce moment est très présent sur les écrans et c'est tant mieux. Ferrara signe là un autoportrait fictionné, puisque sa femme et sa fille font partie de l'aventure. L'histoire, c'est celle de Tommaso, donc, qui mène une vie rangée en Italie. Il donne des cours, il écrit un nouveau scénario, il essaye aussi d'apprendre la langue de Dante. Et puis surtout, il a troqué whisky et cocaïne pour de l'eau gazeuse et des pâtes aux légumes. Et si ce régime lui donnait des visions? Et s'il devenait parano? Et si cela lui ôtait toute énergie de création? C'est une psychanalyse que nous montre le cinéaste qui essaie de ne pas perdre les pédales. On a le sentiment que le personnage a un peu peur de la vie qu'il mène et que lutter contre ses angoisses dévorantes le mine totalement. Cette remise en question est extrêmement touchante, même si l'on reste un petit peu nostalgique de ses films précédents. On est heureux de voir que le cinéaste est vivant et très en forme. Tommaso d'Abel Ferrara avec William Dafoe est en salle. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Un vrai bonhomme, le film de Benjamin Parent, co-scénariste de Mon inconnu. Un vrai bonhomme avec Thomas Guy, Laurent Lucas, Isabelle Carré, Nils Otnin-Girard, qu'on avait découvert dans Simon et Théodore, et Benjamin Voisin, que l'on va beaucoup voir cette année. L'histoire peut se raconter de différentes façons, dont celle-ci. Tom est un adolescent chétif et timide qui passe son temps à lire. Il s'apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée et pour l'aider à s'intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère, son héros. L'adolescence est une source d'inspiration quasi inépuisable au cinéma. Là, il est question d'amour et de deuil dans ce film bouleversant qui touche à tous les genres jusqu'au fantastique. Je parle de deuil, mais il faut préciser que c'est un film joyeux sur la relation encombrante entre deux frères et la difficulté de devenir un vrai bonhomme. Benjamin Parent.
C'est l'histoire de deux frères, un petit et un grand, hein, et le petit qui prend énormément exemple sur le grand pour en fait un peu se façonner et devenir un homme, ouais. et devenir même un vrai bonhomme, ouais. Et il va se rendre compte que peut-être son grand frère est peut-être le genre d'homme qu'il n'a pas envie de devenir en fait, parce que c'est aussi ça, les thématiques que j'utilise beaucoup finalement c'est sur aussi la masculinité,
oui.
Et les injonctions de virilité sur... comment s'en détacher, comment trouver sa propre voie et comment devenir l'homme qu'on est supposé être et pas l'homme que la société attend de nous. Enfin, voilà.
Ouais.
Parce qu'il y a tellement de modèles, il y a un modèle, presque un modèle unique en fait, qui nous est plus ou moins raconté à travers la culture, à travers les médias, etc. Et depuis toujours. Et il faut en changer, je pense.
Rassurez-vous, pour les femmes, c'est pareil.
Ah non, mais bien sûr. De toute façon, mais d'ailleurs, on est plus au fait des injonctions de féminité par rapport à la mode, par rapport au corps,
oui,
par
oui.
rapport au maquillage, etc. Ça, on est au fait. Mais il y a une espèce d'ignorance qui s'estompe hein, de plus en plus, bien sûr, hein, au sujet des hommes.
Oui.
Les hommes n'ont pas l'impression qu'ils sont soumis aux mêmes obligations.
Mm-hmm.
Et ils le sont. Mais c'est d'une manière différente.
Ouais. Et ça, du film commence par un mensonge. Moi, j'étais assez intriguée par cette façon de nous faire entrer dans le film, où en fait, on est au départ, en tout cas, pas complice, mais en tout cas, mis dans le secret très rapidement. C'est important aussi de commencer comme ça, par une espèce de chose fausse pour instaurer des relations entre deux frères.
Oui, en fait, on ne voulait pas en faire un... que ce soit pas une... enfin, que ce soit une surprise, mais on voulait pas que ce soit une surprise qui traîne. Justement, pour moi, tout l'enjeu, un des enjeux reposés là-dessus, c'était de revisiter en fait des scènes qu'on peut avoir déjà vues peut-être dans des films avec des adolescents, dans des teen movies, mais avec un twist, avec un regard un peu différent, parce que sans trop en dévoiler, je pouvais incarner à l'image ce que pense le personnage en fait. Montrer ce qu'un garçon, un adolescent peut ressentir et l'incarner à l'image, le visualiser et montrer son ego, sa colère, sa virilité mal placée, son orgueil et en même temps ses souvenirs et incarner à l'écran sa psyché et super vite donner au spectateur... jouer avec le spectateur juste au début et après lui donner des clés et rejouer avec lui plus tard parce que le film, même si pour moi c'est complètement naturel de faire comme ça, je me rends compte que le film change de registre en fait, vers le film de genre, même le fantastique, un peu avec même un passage un peu angoissant, mais c'est des mouvements que j'espère en tout cas naturel dans le film, on y vient tout naturellement.
C'est drôle aussi, il y a des passages hyper, hyper drôles.
Bien sûr, il y a tout. Bah, en fait, ce que j'aime bien faire, l'approche que j'ai, c'est que je pense que je peux pas faire des films complètement comédie ou complètement drame. Et vraiment, je dis toujours, c'est mettre de la comédie dans le drame et du drame dans de la comédie. C'est toujours rien n'est jamais véritablement triste et rien n'est jamais véritablement drôle.
Comme dans la vie, quoi.
Comme dans la vie, exactement. C'est essayer de capter quelque chose de la vie qui fait que, je cite souvent cet exemple, que on peut avoir des crises de rire à des enterrements. Mais c'est pas quelque chose qu'on figure notamment. Alors qu'en vrai, on peut l'expérimenter, mais on le figure pas tellement souvent au cinéma ou des choses comme ça. Enfin, j'ai pas souvenir, ça a dû être fait dans des films évidemment. Et mais j'aime bien donc toujours ce gris, le côté gris des choses en fait. Le film parle de quelque chose qui est jamais incarné, mais il en parle. C'est l'idée des modèles aussi, c'est-à-dire que Tom, le personnage principal, n'arrive pas vraiment à intéresser son père. Donc il a pas. Non pas qu'il lui faut une figure masculine pour grandir, mais qu'il lui faut une figure de force, et il ne voit que son père l'incarnant. Comme son père s'occupe pas de lui, il se met sur son frère, alors que l'une des personnes les plus fortes du film, si ce n'est la personne la plus forte du film, c'est sa mère, mais qu'il ne le voit pas, et qu'elle aussi c'est quelqu'un qui est un peu éteinte et qui peu à peu va se révéler et s'imposer dans son foyer. Et je voulais que le personnage soit attiré par des modèles qui incarnent une force, en tout cas que lui ne semble pas avoir. Ce qui l'attire chez son copain JB, c'est justement une espèce de pas de nonchalance, mais en tout cas que JB, il se pose beaucoup moins de questions sur les choses. Il avance,
il a une forme
de,
pas, en plus.
Il juge pas, il a une forme de maturité. Il est malin, il est doux, il est délicat. Et comme ça, il y a d'autres masculinités qui existent. Et comme ça, en fait, peu à peu, il a des appels du pied, finalement, de la vie, quoi. Plus il se rapproche de ces gens, plus il antagonise son frère. C'est très dur de grandir avec un frère comme ça. Moi, moi, je suis l'aîné, mais j'ai un petit frère qui, très vite, s'est imposé dans le rap, dans le hip-hop, comme DJ.
D'accord.
Qui est devenu un nom incontournable. Quand il avait 18 ans, il s'appelle DJ Pone. Il a monté les Birdie Nam Nam. Et récemment, il était le DJ de la tournée de NTM. Ils étaient deux DJ, donc des fois, ils étaient quatre sur scène, dont mon frère.
Ah ouais?
Voilà. Donc moi, j'ai grandi quand même avec un frère qui s'est réalisé et trouvé très très vite. Et je pense que j'avais une petite pression quand même. Donc j'ai grandi sans trop en souffrir, mais en tout cas, je pense que c'était un peu quand même là, hein, dans l'air. Et donc ça, je pouvais assez imaginer ce que c'était de grandir en ayant comme frère un Léo, quoi.
Ouais.
J'ai grandi avec un Léo, moi aussi. Ouais.
Mais du coup, maintenant, vous êtes un vrai bonhomme.
Ou presque. En fait, c'est marrant parce que je pense que ça dépend quelle définition on a d'un vrai bonhomme. C'est que je pense qu'aujourd'hui, être un vrai bonhomme, c'est justement être un homme vrai et en accord avec qui on veut être, avec, etc. Et pas se laisser influencer par des injonctions ridicules et tout ça. Et en fait, être un vrai bonhomme, c'est juste être un homme adulte qui s'accepte et qui respecte les autres et qui essaie pas de les dominer et tout ça. Mais c'est un travail. La déconstruction de cette masculinité-là, elle est quotidienne. C'est presque dans notre ADN. Et c'est un travail qui est fastidieux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un vrai bonhomme de Benjamin Parent avec Benjamin Loiseau, Laurent Lucas, Isabelle Carré et Thomas Guy est en salle depuis mercredi. La musique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, c'est celle de Michel Legrand, revue par Hervé Célin, dont le CD vient de sortir. L'émission est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, vivement dimanche.